Biologie naturelle par le père Philippe, à Saint-Joseph, le 26 février 85.
D'après ce que vous avez dit sur le lieu, et en particulier sur le lieu de l'homme, qu'est-ce qui distingue encore le lieu de la fin ? C'est une question très intéressante. Ceux qui ont regardé, alors je vous renvoie, hein, ceux qui veulent travailler le lieu. C'est une question très, très difficile. Le premier qui a fait une étude sur le lieu, c'est Aristote dans sa physique. Je crois qu'on ne peut pas comprendre vraiment l'aristotélisme et la pensée d'Aristote si on ne regarde pas cette question du lieu. Le lieu et le temps, qui sont les deux mesures de ce qui est mu. Le mouvement est mesuré par le temps, et ce qui est mu est mesuré par le lieu. Alors vous voyez que c'est quand même deux aspects très intéressants, parce que le point de vue du lieu et du point de vue du temps a été transformé dans notre philosophie contemporaine par un aspect subjectif kantien, où vous avez l'espace et le temps. L'espace et le temps, tout le monde considère que l'espace et le temps, ce sont les deux grands conditionnements de notre pensée. C'est les deux grands conditionnements du devenir de l'intelligence. Le devenir de l'intelligence est conditionné par le point de vue du temps et du lieu. Alors, ce qui est très intéressant, c'est de voir que la première étude objective du devenir, de ce qui est mu, va impliquer tout de suite le lieu et le temps. Alors, toute la grosse question, une question très difficile et très intéressante, le passage entre le point de vue du lieu et l'espace. Comment comprendre la différence entre les deux ? Le lieu est saisi dans une philosophie objective, réaliste, comme la mesure. Tout corps mu, mobile, qui est mu, tend vers le lieu. Le lieu est d'une certaine manière la fin. C'est une fin de mesure. C'est une fin qui n'est pas une véritable fin, puisque c'est la fin d'un corps mobile. Un corps mobile se repose dans son lieu. C'est le repos. C'est pour ça que c'est la fin. Vous comprenez très bien que la finalité du mobile, c'est de se reposer. Mais le monde physique est toujours en mouvement. Il n'y a pas de repos dans le monde physique. Pour Aristote, il y a un repos dans le monde physique. Et c'est là où on doit mettre un petit bémol par rapport à Aristote. Hein, puisque quel est le repos du monde physique ? C'est le centre de la Terre. La Terre permet à l'univers de se reposer. C'est ça la grande vision d'Aristote. Hein, la Terre permet au monde de se reposer. Parce que c'est l'axe par où tout passe. Vous voyez ? Comme la Suisse permet au monde de se reposer, parce qu'elle est neutre. Alors elle permet ça. Alors, je donne des analogies pour que vous compreniez. Des analogies qui sont vraies sur un point, pas vraies sur d'autres. Hein, comprenez bien. Parce que si vous prenez ça. Mais c'est l'axe. C'est un axe. Un axe qui permet de situer tout le reste et qui donne le point de vue du lieu de repos. Une neutralité. Le mouvement est entre deux contraires. Bon, pour être dans le lieu, il faut être au-delà des deux contraires. C'est pour ça que je prends la neutralité. Il y a là quelque chose d'analogue et qui nous aide à comprendre comment on peut saisir ce point de vue de la Terre. C'est une vision qui n'est pas une vision physique, hein, moderne, qui est une vision philosophique. C'est ça qu'on a beaucoup, beaucoup de peine. Ce serait très intéressant, du reste, ça. Avec de bons physiciens, puisque de voir comment pouvons-nous garder encore cette notion du lieu. Ou est-ce que nous sommes obligés de dire cette notion du lieu est complètement périmée, ce qu'on le dit habituellement, hein, si je prends un langage moderne, je dirais cette notion du lieu est complètement périmée et elle est changée dans la notion de l'espace. C'est vrai que le lieu, ça ne se vend plus sur le marché. Ce n'est plus un lieu, ce n'est plus quelque chose qu'on peut comprendre dans le monde d'aujourd'hui. Et c'est l'espace qui a remplacé. Ça, c'est très intéressant de bien voir les différences. Alors, la question de la terre, le repos de toute chose dans la terre, ça ne peut se comprendre qu'en conception du lieu. De toute cette philosophie du lieu, c'est-à-dire la conception d'essayer de comprendre comment le corps mobile est finalisé par une mesure, par le lieu, par un corps immédiatement supérieur. Autrement dit, une hiérarchie dans les corps. Parce qu'autrement, il n'y a pas d'hiérarchie, il n'y a pas un corps immédiatement supérieur. Donc, il y a une hiérarchie dans les corps. Et cette hiérarchie dans les corps se prend du côté de la finalité et se prend du côté du lieu. Alors pour Aristote, c'est très simple, la terre est le centre, et puis qu'est-ce qui entoure toute chose, c'est les corps célestes. Les corps célestes enveloppent tout. Et les corps célestes sont justement le lieu de tout le reste. Et au centre, la terre, qui est le repos de notre univers. Et le repos de notre univers, c'est cela. Et philosophiquement, il faut bien comprendre que le devenir rejoint l'être. Le point de jonction du devenir et de l'être. Un devenir pur n'existe pas, puisque une réalité mobile existe. Donc elle est. À l'intérieur du devenir, il y a l'être. Mais il y a un être complètement débile, qui n'existe que dans le devenir. Le point de vue de l'être n'est pas séparé du devenir dans le monde du corps, dans le monde des corps, puisque toute réalité physique implique la matière. Si elle implique la matière, elle implique un devenir. Vous voyez, le problème très difficile. Heidegger, lui, a solutionné le problème d'une façon, j'allais dire, simple, en étant et être. Alors vous avez la séparation de l'être de l'étang. Mais séparer l'être de l'étang, vous voyez, c'est ramener les étangs à du non-être. Ramener les étangs à du non-être, mais c'est terrible. Au bout d'un certain temps, c'est de dire le devenir n'existe pas. Le devenir est inintelligible. Or, le devenir est intelligible, les étangs sont intelligibles, la science saisit une certaine intelligibilité, mais ne saisit pas toute l'intelligibilité. Alors, ce qui est très difficile, c'est de maintenir l'être dans les étangs. Et je crois que c'est la position que nous devons essayer de comprendre, parce que nous ne pouvons pas dire que toute la question de la science, comme Heidegger le dirait, ne nous donne rien sur la vision de l'être. Chaque connaissance scientifique nous dit quelque chose de la réalité, donc quelque chose de ce qui est. Tandis qu'Heidegger est farouche, hein, c'est intéressant du reste de regarder Heidegger de cette manière-là. Heidegger est farouche par rapport à la science, hein. Il l'évacue, ça n'a rien à voir. Ce qui l'intéresse, c'est l'art. Ça, c'est évident. Heidegger est artiste et non scientifique. Alors, sous ce point de vue-là, il est très Platon. Vous voyez ? C'est pour ça que je dis toujours que Heidegger, c'est notre nouveau Platon. Il y a quelque chose comme ça, parce que vos Platon, pas tout à fait de la même façon, mais il y a quelque chose d'analogue, parce que c'est beaucoup plus le point de vue artistique qui domine chez Platon que le point de vue, si vous voulez, proprement scientifique. Le point de vue scientifique est plus présent chez Platon que chez Heidegger. Puisque les mathématiques, pour Platon, sont un intermédiaire qui nous aide à comprendre. Mais c'est un intermédiaire, c'est pas plus que ça. On ne s'arrête pas, on n'aura pas de connaissances scientifiques, de connaissances philosophiques au niveau mathématique. Alors, c'est cette séparation. Alors qu'il faut au contraire, et je crois que c'est ça l'intérêt du lieu, il faut essayer au contraire de retrouver une intelligibilité ultime donc final, dans l'ordre du monde mobile. Les réalités mobiles existent. Si elles existent, elles ont une certaine intelligibilité. Et cette intelligibilité, je dois pouvoir la retrouver à l'intérieur même des corps mobiles. Donc il y a un point sur lequel je retrouve leur intelligibilité et leur être, c'est le lieu. Et alors, il est périphérique, c'est très très joli, l'être qui devient périphérique par le lieu, puisque c'est la mesure. Comme si justement, au cœur du devenir, je découvre la matière. Découvrant la matière, je découvre la non-intelligibilité et la limite de l'intelligibilité. Alors, c'est du côté périphérique que je vais rejeter l'intelligibilité. L'intelligibilité du mouvement, c'est sa fin. Et ça, c'est vrai. L'intelligibilité du mouvement, c'est sa fin. C'est ce que Bergson n'a pas vu. L'intelligibilité du mouvement, c'est sa fin. Il a analysé le mouvement comme si le mouvement avait son intelligibilité en lui-même. Aristote n'a jamais dit ça. Le mouvement n'a pas d'intelligibilité en lui-même. Le mouvement est intelligible par le point de vue de la finalité. C'est la finalité qui donne au mouvement sa finalité. Quand vous allez en voyage, n'importe où, c'est le terme qui donne la finalité à votre voyage. Je vais à Paris. Hein, et votre voyage est intelligible parce que vous allez à Paris. Je vais à Lyon. Enfin, c'est l'intelligibilité du voyage, c'est le terme. C'est ça qui donne l'intelligibilité. Je vais en voyage. C'est comme celui qui prend son billet, c'est arrivé ça. Je viens prendre un billet. Alors le type qui donne les tickets. Où ? Ah, je ne sais pas. Je vais en voyage. C'est intelligible en soi. Enfin, on voit très bien ça, c'est le canular très simple, mais c'est très profond. C'est comme tout le canular. Il y a toujours quelque chose de très vrai. Ça prouve que le voyage en lui-même n'est pas intelligible. Il est intelligible en fonction de son terme. Eh bien, le corps mobile n'est intelligible qu'en fonction du lieu, qui est le terme. Alors, nous imaginons, faisons attention aux petits chaînes imaginatifs périphériques. Hein? Périphériques. Parce que le périphérique, il tourne toujours. Hein? C'est toujours le propre du périphérique. Alors, il tourne toujours. Mais ça, c'est une chaîne du périphérique. Il faut découvrir que dans un corps mobile, l'intelligibilité est toujours du côté du terme. Et c'est le lieu. Alors, comme c'est difficile à saisir. Hein. Au point de vue imaginatif, c'est très bête. Comme toujours. Au point de vue imaginatif, c'est très bête. C'est la périphérie. C'est, vous savez, Aristote montre que le lieu, ce n'est pas le vase. Le chêne, c'est le vase. Vous mettez de l'eau dans un vase. Alors, est-ce que le vase, c'est le lieu de l'eau ? Ben, pas du tout. C'est le contenant. Il contient l'eau. Donc, c'est ce qui mesure l'eau. Mais ce n'est pas même du tout ici. Ça, c'est une mesure artificielle. Tandis que là, c'est une mesure naturelle. Et donc, il faut dépasser le point de vue artificiel schématique pour découvrir l'intelligibilité du lieu, qui est une chose très difficile à saisir. C'est de maintenir jusqu'au bout l'intelligibilité de ce qui est mu. Et de comprendre qu'il y a une intelligibilité dans ce qui est mu, parce que ce qui est mu tend toujours vers un terme. Même si c'est cyclique, ça tend toujours vers un terme. Un terme qui peut être immanent et qui est en même temps périphérique. Ça, c'est difficile à saisir. Alors, c'est la question du lieu, ça. Alors, vous voyez que le lieu, c'est bien la mesure et c'est bien la fin du corps mobile. Et c'est ce qui est immédiatement au-dessus du corps mobile qui permet au corps mobile d'acquérir son achèvement et donc son repos. L'au-delà du devenir, c'est le repos. C'est au-delà du devenir. Alors, le repos n'existe pas dans le monde physique. Il n'y a pas de repos. Il n'y a que l'animal qui se repose. C'est pour ça que quand vous dormez, vous pouvez dire « Je suis supérieur au monde physique, je dors. » C'est pour ça que ça qu'on aime tellement dormir, c'est évident. Parce que là, vous manifestez votre supériorité par rapport au monde physique. Il n'y a que l'animal qui se repose. Le monde physique ne se repose pas. Mais le monde physique implique, en raison de son intelligibilité, un lieu. Très difficile, hein, pas commode du tout à saisir. Alors, mais ça existe, ça continue d'exister, mais c'est très difficile de localiser le lieu. Et même, je crois qu'on ne peut pas le localiser. Parce que l'opacité du monde physique est telle que je ne connais pas. Qu'est-ce qu'on connaît de notre univers, hein ? Pas grand-chose. Hein. On connaît des phénomènes, des tremblements de terre, on connaît des choses comme ça. Tout d'un coup, on voit que quand les tremblements de terre arrivent, on dit, tiens, on croyait que c'était stable, ça ne l'est pas. N'est pas tout d'un coup. Et c'est cette chose qui est très très curieuse, que le monde physique n'a aucune stabilité. Et pourtant, nous vivons comme s'il était stable. Il n'a aucune stabilité, parce qu'il est un monde en devenir. Alors, normalement, l'équilibre fait que ça va à peu près, mais il existe, donc il y a un repos en lui, donc il y a un lieu, il y a une finalité. Alors, c'est ce que je vous avais dit, en réalité, dans les corps mobiles, le corps humain est le corps par excellence, et rien n'est au-dessus. Si ce n'est la présence d'immensité qui localise le corps humain. Alors, vous voyez comment il ne faut pas distinguer le lieu de la fin, il faut dire tout simplement que le lieu, c'est la fin dans le monde physique. Dans le monde physique, la fin existe à travers le lieu. La fin prend ce visage particulier. Vous voyez, ce qui montre qu'il n'y a pas de finalité dans le monde physique. De finalité au sens fort. Hein. La finalité demande un bien qui transcende. Alors là, c'est un bien immanent. C'est presque l'harmonie, l'équilibre qui se fait dans le monde physique. La fin du monde physique, c'est une harmonie, c'est un équilibre. Vous voyez, avis aux psychologues. Hein. Ils font de la psychologie comme du monde physique. Parce que je suis tout à fait d'accord que dans le monde physique, la fin, c'est l'équilibre, c'est l'harmonie. Quand ça commence à se déséquilibrer, ça va très loin. C'est un équilibre. Et cet équilibre n'existe que parce qu'il y a un lieu. Mais vous ne pouvez pas le saisir. Alors, les anciens l'ont un peu trop vite matérialisé. Et la science moderne montre qu'on ne peut pas le localiser comme ça. Mais le lieu demeure. Autrement, il n'y aurait pas d'intelligibilité du monde physique. Il faut qu'il y ait une intelligibilité du mouvement. Et cette intelligibilité ne vient que de la fin. Alors c'est ça qui est difficile pour nous à bien préciser et que je crois très important. Vous voyez, c'est là où la science moderne exige le philosophe d'être plus philosophe. D'être plus philosophe qu'Aristote, ce qui n'est pas commode. C'est-à-dire d'aller plus loin qu'Aristote et plus loin que saint Thomas. Parce qu'eux se sont arrêtés à certaines visions. Mais ce n'est pas par l'espace que vous rejoindrez le lieu. Ah non, jamais. Vous êtes sur une fausse piste. Alors, que voulez-vous, ne rejoindrez jamais, parce que vous avez quitté le réalisme. Alors, ce n'est pas par le point de vue des idées que vous rejoindrez la réalité. Alors, depuis Descartes, on est dans les idées. Il y a une idée de l'espace. Il y a une forme a priori de l'espace pour Kant. Une forme a priori. Donc, c'est une idée. Ça vient de moi. C'est pas ça le monde physique. Le monde physique, il a sa structure propre. Et les savants le savent bien. C'est pas en projetant mes idées a priori, mes formes a priori, que je vais redécouvrir le monde physique. Mais non, pas du tout. Le monde physique a sa structure propre. Et il a sa structure propre que je dois essayer de découvrir. Et c'est très difficile de la découvrir parce que il existe. Et s'il existe, il a donc en lui une harmonie, un ordre, une hiérarchie Et il faut découvrir sa fin propre, qui est immanente à ce monde physique. Donc vous voyez, c'est un problème très difficile que nous touchons là, parce que ça implique des quantités de points de vue que nous ne traitons ordinairement pas. Qu'est-ce qui s'occupe aujourd'hui de la philosophie de la nature d'Aristote? Qu'est-ce qui s'en occupe? Ben, très très peu. La philosophie de la nature, vous voyez, c'est pourtant très important. C'est important de comprendre au moins qu'il y a une certaine philosophie du corps mobile. Et que cette philosophie du corps mobile implique cette recherche de ce que c'est qu'une réalité qui est mue. Et l'intelligibilité de cette réalité qui est mue. L'infrastructure du vivant. Pour essayer de comprendre ce que c'est. Qu'est-ce que ça signifie? Bon, je ne vais pas plus loin et nous avançons. N'est-ce pas? Toujours dans ce point de vue du jugement de sagesse. J'espère que vous comprenez bien. Dans un jugement de sagesse, c'est la vision contemplative que j'ai de Dieu qui me permet de mieux pénétrer dans le point de vue de l'homme. Il faut s'élever très haut, le vol de l'aigle, il faut s'élever très haut pour saisir les profondeurs de la mer. Parce que si vous êtes au rivage de la mer, il y a une opacité. Tandis que si vous vous levez très haut, alors à ce moment-là, il y a une compénétration qui va très loin. Alors il faut saisir ça. Et c'est ce que nous essayons de faire, vous voyez. Alors je sais très bien que ce n'est pas commode pour vous, parce que il faudrait connaître tout le reste, hein. Connaître tout le reste. Ici, on voit très bien. On achoppe au lieu. Ce qu'on dit, l'omniprésence. Dieu n'est pas dans un lieu. Je ne dis pas, Dieu n'est pas dans l'espace. Ça n'aurait pas de sens. Parce que Dieu n'est pas dans la tête de Kant. Hein. Dieu n'est pas dans les formes a priori de Kant. Hein. Ça, c'est sûr, les formes a priori de Kant, c'est des êtres de raison. Et donc, Dieu n'est pas présent dans les êtres de raison. C'est le seul lieu où il n'est pas. Parce qu'il est intelligent. Parce qu'il est la sagesse. Il n'est pas dans les êtres de raison. N'allez pas dire dans les êtres de raison. Dieu habite dans les êtres de raison. Non, non, pas du tout. Il habite dans les réalités qui existent. Et l'omniprésence de Dieu, c'est d'être présent, source de tout ce qui existe. Alors les anticorps, hein, par rapport à l'omniprésence de Dieu, c'est des êtres de raison. Vous voyez, c'est les êtres de raison sont quelque chose qui n'est pas, qui n'existe pas, donc Dieu ne peut pas être présent. C'est l'homme qui est présent, et c'est son domaine propre. Chasse gardée. C'est pour ça qu'il les aime tellement. Et depuis le péché, hein, l'homme a peur de Dieu. Première réaction. Qu'on voit dans l'écriture, ce n'est pas de la philosophie, quoique ça peut être de la philosophie, je peux lire ça comme une tradition religieuse extrêmement intéressante dans une vision de sagesse. L'homme a peur de Dieu, il a très peur de Dieu, alors il entend le pas de Dieu, il se cache, hein, plus possible. Alors, traduisez ça intellectuellement. La recherche de la vérité nous conduit à Dieu. Comme on a peur de Dieu, on ne recherche plus la vérité. Qu'est-ce qu'on fait si on ne recherche plus la vérité? La recherche de la vérité, c'est le double mouvement. C'est intéressant parce que je crois que ça explique beaucoup de choses dans un jugement de sagesse. La recherche de la vérité fait que nécessairement, au terme, on aboutit à la vérité première. Avec des difficultés, hein, on dégringole par moments dans le fossé, ça n'a pas d'importance. Hein, mais on est orienté, cette recherche de la vérité. Cette recherche de la vérité conduit notre intelligence, notre mus vers la vérité première. On la découvre. Pas toujours immédiatement, mais longtemps, mais on la recherche. Tandis qu'au contraire, si j'ai peur de Dieu, si affectivement j'ai peur de Dieu, si affectivement il y a en moi quelque chose qui fait que je suis dans un refoulement constant par rapport à cette vérité première qui est Dieu créateur, je me replie sur moi, parce Parce que ça, c'est la finalité. C'est la finalité qui me permet de monter. Toutes les montées se font par la finalité. Hein, ça, c'est, il faut bien se... La finalité seule me donne le sens de la transcendance. Donc de ce qui me dépasse. C'est par l'archive de la finalité que j'aboutis à la vérité première et à Dieu. Si j'ai peur de Dieu, je me replie sur moi-même. Je suis donc en face d'un ours qui, à la place de rechercher la vérité en cherchant la réalité et en cherchant l'ordre qui existe, à connaître l'ordre, je suis en face d'un ours qui se replie sur lui-même. C'est un ours qui se replie sur lui-même. Hein. Prenez l'image, c'est très très joli comme image. C'est pas la différence. Les anciens disaient que les oiseaux de nuit, hein, l'intelligence humaine, c'est les oiseaux de nuit. Ils sont fascinés par la lumière, mais ils ont beaucoup de peine à découvrir la lumière, le hibou. Tandis que si vous prenez la chauve-souris, vous avez déjà vu une chauve-souris dormir. Très très jolie, chauve-souris, là-dedans. Hein. Elle est repliée sur elle-même. Oui, depuis Descartes, ce n'est plus la chauve-souris, ce n'est plus le hibou, c'est la chauve-souris, le philosophe. Le philosophe, il est chauve-souris. Il se replie sur lui-même. Il a tellement peur de la réalité, il a tellement peur de rencontrer Dieu. C'est affolant un philosophe qui rencontre Dieu. Un théologien, c'est pas commode, mais un philosophe, on est, c'est rencontrer Dieu. Il a une frousse intense de rencontrer Dieu. Alors il se replie. Et quand l'homme, l'intelligence se replie sur elle-même, qu'est-ce qu'elle découvre ? L'être de raison. Puisque l'être de raison, c'est le fruit d'une intelligence et du conditionnement de l'intelligence. Elle découvre l'être de raison. Et dans l'être de raison, il est très heureux parce qu'il ne rencontrera jamais Dieu. Et dira donc au terme, Dieu n'existe pas. Je ne l'ai jamais rencontré. L'être de raison, ça prend des modalités très différentes, l'être de raison. Hein. Ça prend des modalités très... Mais c'est l'être de raison. Là, c'est le domaine propre de l'homme. C'est sa demeure. C'est sa forteresse. Vous pouvez prendre ce petit chêne, c'est intéressant parce que ça fait comprendre comment les traditions religieuses en dernier lieu nous font comprendre cette attitude affective de l'homme. Il y a une affectivité de l'homme qui le conduit vers la vérité, l'amour de la vérité. Et l'amour de la vérité fait qu'on n'a pas peur de rencontrer Dieu, parce qu'on rencontre Dieu comme vérité première. Et si à l'amour de la vérité, je sais que c'est la réalité qui me conduit à la vérité. C'est en aimant la réalité que je découvre la vérité, en aimant l'homme, puisque c'est l'homme qui est la réalité la plus parfaite. C'est le corps de l'homme, c'est l'âme de l'homme qui me permet de découvrir la réalité. Le corps de l'homme uni à l'univers et l'âme de l'homme uni à l'intériorité. Et donc je sais que c'est dans l'homme que je vais découvrir constamment cette montée vers la vérité. Si j'ai peur de Dieu, affectivement, je ne l'avoue pas. Et c'est pas Adam qui avoue, c'est Dieu qui lui dit « Qu'est-ce que tu fais ?» hein? Et Dieu a le droit de lui dire ça. « Qu'est-ce que tu fais ?» Comme Dieu dit toujours ça aux philosophes. Qu'est-ce que vous faites? Vous tournez le dos à la vérité. Vous ne recherchez plus la vérité. Vous qui êtes les gens de la vérité, vous tournez le dos à la vérité. Qu'est-ce que vous faites? Alors ils n'avouent pas. Ils ont peur. Ils ont peur. Alors, ils se replient sur eux-mêmes. Et qu'est-ce qu'ils découvrent? L'être de Dieu. La logique. Dieu n'est pas dans la logique. Et Dieu laisse l'homme tranquille dans sa logique. Il reviendra dans la gloire et les philosophes seront repliés dans leur logique. Et diront, il n'est pas présent. Il n'y a pas de présence d'immensité dans l'être de raison. C'est extraordinaire ça. C'est le domaine du vide, si vous voulez. Comprenons bien, l'être de raison, c'est pas le néant. C'est pas le néant. Et c'est pour ça qu'on l'aime tellement, parce qu'il n'a pas d'odeur, il n'a pas de finalité, il est sui generis, hein, il est quelque chose de tout à fait particulier, qu'on découvre dedans de nous-mêmes. Et on creuse ça et on découvre ça. Mais bien, parce qu'on est uniquement avec soi-même. Donc présence d'immensité, c'est pour montrer que Dieu est présent, présence d'immensité dans toutes les réalités et dans la vérité. Et dans l'être présent, parce que l'être de raison n'existe pas. Et Dieu est au-delà de tous les lieux, puisqu'il est source du lieu. Il est source de toutes les réalités. Alors maintenant, entrons dans, je crois, le numéro 6. Hein. Sixième jugement de sagesse. Si l'être premier, philosophiquement j'aime mieux dire l'être premier toujours, vous voyez pourquoi? Parce que Dieu, ce n'est pas un nom philosophique, c'est le nom des traditions religieuses. Alors je crois qu'il faut être sensibilisé à ça. Quand on est philosophe, il vaut mieux pas parler trop vite de Dieu. Il vaut mieux dire l'être premier, l'être absolu. On sait c'est qui. En tant qu'homme et en tant que tradition religieuse. Si l'être premier est infini dans son être, il ne peut être en mouvement. Il est au-delà du mouvement, au-delà du devenir. Il est immobile, il est immuable, il est stable. Il est l'axe de tout. Tandis que toute créature, du fait même qu'elle est limitée, est capable de transformation et de devenir. La créature, c'est le lieu du devenir. Et Dieu, en raison même de son infinité dans son être, il est le lieu de l'au-delà du devenir. Cette phrase si force non boutant, cette affirmation de Dieu, je ne change pas. Dieu ne peut pas changer. C'est très difficile pour nous, vous voyez, parce que nous avons une mentalité d'évolution, et pour nous, l'évolution définit la vie. Et c'est un des aspects sur lequel l'athéisme va se bloquer. Si l'évolution définit la vie, Dieu ne peut pas exister. Parce que si Dieu existe, il est vivant et il est au-delà de l'évolution. Et c'est vrai, Dieu est au-delà de l'évolution. Dieu n'évolue pas. Dieu ne peut pas évoluer. Donc l'évolution n'est pas une perfection, c'est un conditionnement. C'est le conditionnement d'un être limité et imparfait. Mais l'évolution n'est pas un principe, ça ne peut pas être un principe de vie, non. C'est un conditionnement. Vous voyez, tout ça est sous-jacent, et c'est là la grande purification de ce jugement de sagesse qui va nous faire comprendre et situer exactement qu'est-ce que c'est que le devenir. Au point de vue philosophique, dans un jugement de sagesse. Dans un jugement de sagesse, je peux affirmer tout de suite que Dieu est immuable. Alors nous allons d'abord regarder cette contemplation de Dieu immuable comme acte pur, il est. Et puis dans cette lumière-là, nous allons essayer de comprendre comment l'homme est le lieu de toutes les mutations. Là, nous rejoignons ce que la biologie d'aujourd'hui montre d'une manière étonnante. Et je dirais que l'homme, c'est le lieu de toutes les mutations les plus extraordinaires qui soient. C'est l'être du changement, l'homme. Et c'est pour ça qu'il a tellement de peine de garder son identité au milieu de ce changement. Et quand, dans la mesure où vous affirmez plus que le changement, il y a la perte de l'identité. Et nous savons qu'aujourd'hui, c'est le grand mal. On ne sait plus ce qu'on est. On ne sait plus. La perte de l'identité. C'est très très joli ça. Parce que ça montre comment l'évolution l'emporte sur l'être. Et on fait de l'évolution un principe. Le jour où vous faites de l'évolution un principe, vous perdez votre identité. Vous ne savez plus ce que vous êtes. Il faut retrouver le roc. Le roc, c'est Dieu non mutant. C'est Dieu qui ne change pas. C'est Dieu qui est la stabilité la plus forte qui soit. La stabilité par elle-même. Il faut comprendre que cette stabilité n'est pas l'être en soi. Le manche à balai de Sartre. Vous savez, c'est ce qu'il dit, ça. L'être en soi, c'est le manche à balai. Alors, c'est pas ça du tout. Mais c'est très joli ce que dit Sartre, ça. C'est très très joli parce que ça exprime symboliquement quelque chose de très très vrai dans le monde d'aujourd'hui. C'est la statue de sel. Si Sartre avait été un peu plus dans les traditions religieuses, à la place du manche à balai, il aurait dit la statue de sel. On est pétrifié. Parce qu'on est dans la stabilité. Pour beaucoup, vous voyez, politiquement, c'est toujours très intéressant de voir ça, les répercussions politiques. Pour beaucoup, politiquement, ceux qui sont pour une finalité, ceux qui sont pour la recherche des principes, ceux qui sont pour l'ordre, sont identifiés à ce fait d'être pétrifié, changé en statut de sel. Oui, ça explique la tactique d'un Giscard, il faut tout le temps tout changer. Comme ça, il n'y a pas de danger. Vous n'êtes pas un homme de droite. Vous êtes dans un homme du mouvement. Et c'est ça le mouvement. Le mouvement est considéré comme nécessairement une perfection. Or, le mouvement, c'est une condition, c'est pas une perfection. Il y a du mouvement qui est bon, il y a du mouvement qui est mauvais. Parce que le mouvement se définit par la finalité. Et le mouvement est ni bon ni mauvais. Il y a une politique de... Il faut changer. Il y a les fous qui changent sans savoir où ils vont. C'est la définition de la folie. La définition de la folie, c'est celui qui a besoin de bouger pour bouger. Et on le sait très bien, quand on est très fatigué, on a besoin de bouger pour bouger. On dit, mais pourquoi bougez-vous ? Ah, parce que j'ai besoin de bouger. Parce que vous n'êtes pas bien dans votre peau. Alors on doit bouger. Mais le mouvement comme tel n'a pas de perfection. Il n'a pas de sens. Il n'a de sens que par la finalité. Et c'est tout ça qui doit être, qu'on doit essayer de comprendre. Hein. Parce que tout ça, ça va très loin, ces choses-là. Jugement de sagesse, je vous l'ai dit au début de l'année, c'est quelque chose qu'on ne voit jamais en philosophie. Jamais. On ne voit jamais le jugement de sagesse. Vous voyez ça, enseigner ça en Sorbonne, ça n'a pas cours. Hein. C'est impossible. C'est pourtant le terme de la philosophie. Et donc, si on ne voit pas ça, la philosophie perd son sens. On est pour la recherche, pour la recherche. Merleau-Ponty qui dit que la philosophie, c'est une recherche. Il ne faut jamais trouver, parce que le jour où on trouve, il n'y a plus de philosophie. Il y a une sagesse. Si vous avez rayé la sagesse, il ne faut jamais trouver. Il faut tout le temps chercher. Alors vous êtes pour le changement. Et vous oubliez que Dieu, c'est l'être immuable. L'être est ce qui permet de comprendre la stabilité. Le devenir n'explique pas la stabilité. Il ne peut pas l'expliquer. Le devenir ne peut pas expliquer la stabilité. Et donc celui qui est pour le devenir, il perd son intelligibilité et devient fou. Je crois que c'est la grande tactique du démon, ça. La tactique du démon, c'est de nous rendre fous. En nous faisant croire que le devenir et que le progrès, c'est notre finalité. Et que le changement pour le changement est toujours bon. Non, c'est pas vrai. C'est de supprimer l'être et de regarder uniquement le devenir et croire que le devenir possède en lui-même sa finalité. Et la finalité est toujours au-delà du devenir. Alors, regardons bien. Cette contemplation de l'être premier en tant qu'il est au-delà du mouvement, au-delà de toute conditionnement. Il est acte pur. Tout mouvement se fonde sur l'être en puissance. L'être en puissance, c'est ce qui explique en dernier lieu et fondamentalement le point de vue du mouvement. Puisque ce qui est en puissance est capable d'être déterminé. Ce qui est en puissance est capable d'être actué. Donc c'est la capacité d'être actué. C'est la capacité donc de changer. Puisque il change en acquérant telle ou telle détermination, tel ou tel acte. Alors, à ce moment-là, vous comprenez que si Dieu est l'être en acte pur, il n'y a plus aucune potentialité en lui. La potentialité ne peut pas exister en Dieu. Dieu ne serait pas l'être premier. Si Dieu est l'être premier, il ne peut pas être en puissance. Il ne peut être qu'en acte. Et je crois que c'est la grande vision d'Aristote, c'est peut-être ce qu'Aristote a dit de plus beau, c'est que l'être premier est acte pur. Et c'est ce que saint Thomas a retenu et a repris. L'être premier est acte pur. Platon disait l'être premier est la bonté suprême. Aristote dit l'être premier est acte pur. Un être sans potentialité. Si cet être est sans potentialité, il ne peut pas y avoir de mouvement en lui. Il est l'alpha et l'oméga. L'acte pur, donc qui possède en lui-même l'alpha et l'oméga. Il est l'alpha et l'oméga. Il est au-delà de tout changement, de toute possibilité de changement. Il est parfaitement lui-même, par lui-même, il est. La grande vision de Parménide, ça, ça a été quand même vu par Parménide et par Aristote. L'être en acte, c'est l'être nécessaire. Pas de possibilité de changement. Et ceci provient parce qu'il est premier. Et donc il a une indépendance, une autarkeia parfaite. L'autarkeia, elle vient de là, il ne faut pas l'oublier. L'autarchie, être absolument autonome. Dès qu'il y a en vous une capacité de mouvement, vous n'êtes pas parfaitement autonome. On sait très bien qu'on peut vous changer. Et donc on essaiera d'avoir de l'influence sur vous pour vous modifier. Tandis que quand vous êtes en face de l'autarkeia parfaite, c'est-à-dire l'acte pur, vous ne pouvez pas changer. Impossibilité. Dieu est le seul être qui ne peut pas être tenté, parce que pour être capable d'être tenté, il faut justement être capable de changer. Si vous êtes en autarchie, dans une autonomie parfaite, vous ne pouvez plus être tenté. Très curieux ça, l'influence de l'autre sur l'autre. Alors l'autre apparaît en premier comme tentateur, c'est pour ça que l'enfer c'est l'autre. N'est-ce pas ? C'est le tentateur, c'est celui qui va vous faire changer, parce que vous avez une capacité de changer. Si vous n'avez pas une capacité de changer, c'est impossible, mais vous avez une capacité de changer. Cette capacité de changer n'existe pas en Dieu. Dieu est l'être qui ne peut pas être tenté. Pourquoi ? Parce qu'il est seul. Il est seul à son niveau, il est unique. À son niveau, il est seul. Donc, il ne peut pas être modifié par lui-même, ni par personne d'autre. Et c'est en ce sens-là qu'on peut dire qu'il est le roc, symboliquement. Le langage symbolique dit que Dieu est le roc. C'est la stabilité, c'est la fixité. Mais quand on dit stabilité et fixité, on veut montrer l'au-delà de toute potentialité. Donc on veut exprimer une perfection suprême. Il possède en lui-même sa propre fin. Il est au-delà de tout mouvement, il possède en lui-même sa propre fin. On ne peut être stable que dans la mesure où on possède en soi-même sa propre fin, et donc son propre bonheur. Autrement, on ne peut pas être stable, parce qu'on cherche. Mais la naissance du besoin, il n'y a pas de besoin en Dieu. Dieu n'a besoin de rien. Il est. Le besoin vient de la potentialité. Le besoin vient parce qu'on commence à loucher. On n'a pas l'autarchie en soi. Chaque fois que vous louchez, mais quand vous regardez l'autre avec un certain désir, c'est parce que vous n'êtes pas pleinement vous-même. Et c'est ça qui fait comprendre qu'on est influençable. On est influençable dans la mesure même où il y a en nous cette potentialité, alors on est vulnérable et influençable. En Dieu, il n'y a pas cela. Vous allez me dire, c'est terrible, alors, vous voyez cette vision de Dieu qu'on peut avoir, hein. C'est impossible, influençable par personne. Alors, on pourra, j'allais dire, corriger cette vision en disant, Dieu est amour. Et donc, souverainement influençable. C'est extraordinaire, ça. Alors, c'est ça, je peux affirmer les deux, et je dois affirmer les deux en même temps. Et c'est pas contradictoire. Nous reviendrons là-dessus, parce que ça, c'est important pour nous.
Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit.